Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, la reine, l'émission d'information locale de Canal B s'apprête à commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, début de 15 jours d'événements autour de la journée contre les violences faites aux femmes. Interview pour annoncer le festival des solidarités du 17 novembre au 3 décembre à Rennes. Il y aura de la musique dont une nouveauté, la rediffusion d'un reportage à la MAMI, la maison des migrations. Et puis recommandation, rencontre avec la photographe d'Océan Plastique. C'est jeudi, bienvenue dans l'arène. Allez, l'info du jour pour débuter cette émission. Aujourd'hui, mercredi 15 novembre, c'est le début d'une programmation durant 15 jours portée par la ville de Rennes dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui aura lieu le 25 novembre. Des violences, on le redit, qui s'inscrivent dans un continuum et qui vont de la blague sexiste au féminicide dans le pire des cas, en passant par le harcèlement de rue ou encore les viols. Pour en parler et puis pour agir, une trentaine d'événements sont organisés dans Rennes et sa métropole jusqu'au 30 novembre. Le détail est à retrouver en ligne sur métropole.rennes.fr. Cette semaine, ce n'est pas dans le programme, mais j'en dis un mot puisque c'est en lien avec les luttes féministes. Il y a l'ouverture de la Maison des Femmes Gisèle Halimi, lieu qui sera inauguré vendredi 17 novembre sur le site de l'Hôpital Sud à Rennes. Un lieu de ressources où être entendu, cru, prise en charge, soignée et accompagnée, dans le prolongement du numéro de téléphone national et gratuit qui existe déjà et qu'on redonne, c'est important, le 39 19. Je reviens à la programmation de la ville de Rennes. On peut annoncer ce qui arrive en cette fin de semaine. Jeudi 16 novembre à 18h, le web magazine Bresse Femmes et Mot pour Mot proposent des regards croisés sur les violences intrafamiliales. Ça se passe au salon de thé culturel Les Références Électriques, place du Souvenir à Rennes, avec les points de vue de Charline Olivier, elle est travailleuse sociale et autrice, et le point de vue d'Emma Lécuyer, autrice du roman Mis à mort. À mort, pour parler de l'emprise, des relations d'emprise. Autres événements à venir, une causerie au cri d'Ève, ça c'est vendredi à 18h, sous forme d'exploration collective des liens entre les chasses aux sorcières et la colonisation, et puis une rencontre samedi de midi à 17h, place de la mairie, tous et toutes mobilisés, ce sont des chants, un spectacle et puis un temps d'hommage en compagnie de plusieurs acteurs, le planning familial, Nous Toutes 35, le centre d'information sur les droits des femmes et des familles, et puis Amnesty Rennes. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure de l'interview du jour. Lydie Cadeau et Christian Bazin, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Je vous présente. Alors Lydie, vous êtes en charge de la communication à la MIR, la Maison Internationale de Rennes, qui coordonne le Festival des Solidarités dont on va parler. Ça se passe du 17 novembre au 3 décembre ici à Rennes. Et alors Christian Bazin, vous faites partie du collectif Rennes Bétunia qui participe à cet événement avec plusieurs propositions qu'on va détailler. On commence par situer le Festisol, Festival des Solidarités. C'est un événement national et même international qui est annuel, lancé il y a plus de 20 ans. Et à Rennes, c'est la MIR, la Maison Internationale de Rennes, qui pilote l'événement, mais elle n'est pas seule, il y a un collectif autour qui s'agrandit chaque année.
C'est ça, exactement. Donc cette année, il y a à peu près une bonne vingtaine d'associations qui co-construisent à partir du mois d'avril des temps d'animation sur une thématique donnée. Donc la thématique là, elle est lancée par le national et après c'est le collectif qui la reprend ou pas. Donc là, cette année, ça a été le cas pour la thématique de la souveraineté alimentaire. Et donc, on va parler d'alimentation, de la production à la consommation, et surtout, tous les modèles aussi qui existent autour de la souveraineté alimentaire, comment on peut aussi créer une indépendance, l'impact que ça peut avoir sur la population, sur l'environnement, la santé.
Et donc tous ces thèmes, ils seront explorés par le collectif Festisol qui comprend aujourd'hui environ 40 acteurs regroupés autour de la MIR. On le redit, la MIR qui est un regroupement d'associations rennaises de solidarité internationale et d'échanges interculturels qui est implanté en centre-ville. Là, c'est la 26e édition du Festisol. Ça se passe du 17 novembre au 3 décembre. On prend un tout petit peu d'avance. Et en regardant le programme, j'ai l'impression qu'on revient à un événement peut-être un peu plus ramassé qu'en 2022. Il faut dire que c'était un peu une édition anniversaire. anniversaire, la 25e édition, qui avait la particularité d'être croisée avec le programme du Festival Cinéma Alimentaire. Là, finalement, ce sont des propositions peut-être encore plus collectives que d'habitude, regroupées vraiment sur des temps forts, une dizaine de temps forts.
Bah, c'est exactement ça, en fait, le but aussi du Festival des Solidarités, c'est la co-construction. De projets d'associations sur le territoire, en fait. C'est de montrer les initiatives locales au public rennais.
Donc avec 11 événements qui sont organisés, mais pour 19 animations grand public. Sur l'affiche, on voit un mot d'ordre, personne n'est illégal pour cette édition 2023 du Festival des Solidarités. Les propositions sont à retrouver dans le détail en ligne sur le site festivaldessolidarités.org. Avant de détailler les propositions du collectif Rennes-Bétunia, focus sur deux autres événements. L'un des premiers événements à venir, ce sera le mercredi 22 novembre. Un festifood, ça se passera à l'hôtel Pasteur plutôt en soirée à partir de 18h. Une soirée avec plein de choses prévues dedans, plutôt organisée par des étudiants, je dis pas de bêtises.
Alors il y a les jeunes étudiants européens, l'association aussi COP Trotter, Bretagne Sens et Xylem. Donc en effet, ça sera, il y aura des quiz, il y aura également un concert et il y aura aussi le témoignage d'un producteur malgache.
Donc pour parler de la souveraineté alimentaire, le thème de cette édition, et la soirée se terminera avec un concert du groupe BDA de l'Institut d'études politiques Sciences Po. Tout ça, ça se passe à l'Hôtel Pasteur le mercredi 22 novembre en soirée. L'un des événements sur lequel vous souhaitez amener la lumière aujourd'hui, ce sera un après-midi sous forme de Parlement de la dignité. Rendez-vous pour ça mercredi 29 novembre à la Maison de quartier Villejean, qui est un lieu qui propose d'ailleurs plein de choses tout au long de l'année. Là, ce sont plein d'acteurs différents qui vont être mobilisés pour parler plutôt de l'exil, c'est le sujet, on peut dire.
Alors oui. En fait, ça fait écho aussi à l'initiative citoyenne européenne qui a été initiée par la Maison de quartier de Villejean, la MIR et les collégiens du collège de Rosa Parks, les troisièmes. En fait, ils voulaient travailler sur la question d'un meilleur accueil des migrants en Europe et donc du coup porter cette initiative à l'Europe dans le cadre de la fabrique citoyenne. Donc du coup les Rennais ont d'abord voté en première étape, puis ensuite c'est amené à la Commission européenne avec le soutien de la ville de Rennes pour récolter 1 million de signatures. Cet événement, ça permet de mettre en lumière à la fois donc cette initiative et aussi la question de la dignité dans le sens large du terme, que ça soit sur l'accueil en termes de logement, en termes de santé, en termes de travail. C'est justement informer, mobiliser aussi, puisque l'événement est aussi porté énormément par les associations de soutien aux personnes exilées à Rennes.
On retrouve notamment des associations bien connues comme la CIMAD, le MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, ou encore UTUD, Un toit c'est un droit, qui seront mobilisés lors de cet après-midi qui commencera à partir de 14h avec différentes propositions tout au long de l'après-midi. On en dit un mot ?
Oui, exactement. Donc ça va être assez dense, mais voilà, les gens pourront vraiment déambuler dans l'espace en fait de toute la maison de quartier de Villejean. Il y aura des expositions, des rencontres. Il y a également une web radio qui sera présente sur place pour évoquer la question de la dignité et aussi des migrations. Il y aura également une fresque participative, des stands d'information, notamment sur la loi immigration qui est passée tout juste au Sénat. Et pour clôturer, un théâtre forum sur justement la question d'accueil de la dignité, de manière à faire interagir le public avec vraiment une animation réalisée par le théâtre de l'opprimé.
À découvrir à partir de 18h à la Maison de quartier Villejean, et puis tout ça se terminera par un temps convivial à partir de 19h30, le Festisol, Festival des Solidarités. Ce sont aussi deux expositions, dont une sur le 1000 au Sahel, une fresque des inégalités, des animations pour les scolaires ou encore un échange sur la précarité alimentaire. Peut-être juste dire un mot sur ces animations pour les scolaires, c'est la partie un peu invisible pour le grand public de ce qui est proposé pendant ce Festival des Solidarités. Ça se passe directement dans les écoles ou vous les faites venir à la MIR ?
Alors pour les écoles, elles viennent en fait à la MIR voir les expos et en même temps donc participer à des animations assez courtes, 15-20 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des associations en fait qui ont formé aussi des jeunes de la maison des familles rurales de Saint-Thomas-d'Aubigné et des jeunes de la Business School dans le cadre de Reciprocity. Et ces jeunes, en fait, vont animer auprès des scolaires. Donc, il y a vraiment un partage aussi de compétences, de savoir. Et donc là, dans le cadre du Festisol, par rapport à la thématique, ils vont surtout parler de la chaîne aussi alimentaire, les questions aussi de production, de transformation des aliments, d'où viennent les produits, que ce soit de la terre ou sinon transformés. Donc voilà, c'est assez riche, mais ça permet vraiment d'interroger, de questionner, et tout ça de manière très adaptée au public scolaire, quoi.
Public scolaire, sur quelle tranche d'âge ?
Donc on est sur du 7-11 ans pour les ateliers scolaires.
Je me tourne maintenant vers Christian, donc Christian Bazin, membre du collectif Rennes Bétunia, qui propose des choses pendant ce Festival des Solidarités, dans un contexte très particulier, on va y arriver. Bétunia, c'est une ville en Cisjordanie, donc territoire palestinien, touchée évidemment par la guerre au Proche-Orient en ce moment. On redit depuis quand existe ce collectif et dans quelle visée il s'est créé, c'est assez récent.
Oui, alors ce collectif a été créé à l'initiative de quelques citoyens rennais donc en 2022. On a fait une première action l'année dernière dans le Festisol, donc justement à la journée Les Femmes d'ici et d'ailleurs. Donc on a pu avoir une association de femmes de Bétunia en direct, en visioconférence. Et donc on était reparti sur l'idée, puisque le thème cette année sur la souveraineté alimentaire, qui nous avait persuadé que c'était vraiment une richesse pour notre combat, on va dire, pour aider les Palestiniens. Et puis, donc, la découverte aussi de ce qui se passe donc, autour de l'accès à l'eau, notamment. Et donc, en avril, donc, comme Lydie le disait, on a commencé à préparer ce Festisol avec l'intention de rendre compte du travail fait par des Palestiniens en Cisjordanie et même à Gaza. Donc ce qui s'est passé depuis, donc, les événements ont bouleversé complètement notre programmation. Il n'est plus question aujourd'hui, si vous voulez, donc, pour le 25, la rencontre du 25 novembre, de réunir les personnes qui étaient prévues, donc un paysan cisjordanien et puis un agriculteur maraîcher de Gaza récemment rencontré à Rennes grâce à l'initiative de l'Union juive pour les Français pour la paix, une association juive mais antisioniste qui sera présente d'ailleurs ce 25 novembre. C'est la seule association qui peut être présente puisque, comme je vous disais, nos échanges avec les agriculteurs sont devenus obsolètes. Donc, par contre, la situation, évidemment, va être discutée, j'imagine.
Un mot sur la ville de Bétunia, donc sur le territoire de la Cisjordanie, territoire palestinien. Il faut dire que c'est une ville avec laquelle Rennes a déjà des liens depuis plus de 10 ans sur un accompagnement de la collectivité eau du bassin rennais pour améliorer l'accès à l'eau qui est très difficile sur ce territoire.
L'origine du projet, effectivement, c'est une coopération décentralisée entre la ville de Rennes et la ville de Bétunia, qui se situe en proximité de Ramallah, donc en Cisjordanie. C'est 45 000 habitants. Et la première action qui a été faite dans cette cadre de cette coopération décentralisée, ça a été une action d'accès à l'eau, de remettre en service les canalisations avec des échanges avec des techniciens, des ingénieurs de l'eau du bassin rennais et puis leurs confrères, collègues de Bétunia. Donc ça, depuis 2014, effectivement, il y a eu beaucoup de travaux de fait. Le collectif, lui, qui existe depuis l'année dernière, était plutôt parti sur l'idée d'ouverture sur la citoyenneté avec des échanges avec des jeunes des écoles de Rennes et de Bétunia, comme on l'a fait l'année dernière aussi avec les femmes, à prolonger. Bon, mais comme vous le savez, donc là, pour l'instant, on est vraiment en stand-by avec ces échanges. Il y a eu une délégation alors de Bétunia qui est venue au début du printemps, enfin, je crois que c'est au mois de février, oui, à Rennes, et qui a été reçue par la maire de Rennes. Et puis, on a discuté avec eux, donc, justement, sur la situation et notamment l'accès à l'eau. La Cisjordanie, c'est la réserve d'eau de toute la région. Hein. Les Palestiniens marchent sur l'eau, sauf que Bethunia est située en zone C, sous autorité israélienne. C'est 80% de l'eau des aquifères les plus importants du Moyen-Orient qui se situent en Cisjordanie sont exportés vers l'Israël, repartent en Israël. Par exemple, un Cisjordanien, quelqu'un de Bethunia, ne peut pas construire un forage. Il est interdit, alors que c'est eux qui ont l'eau sous leurs pieds. Hein. Mmh. Donc, l'exposition sur l'eau là, qui va être présentée, l'eau, une réflexion précieuse, part de cette difficulté d'accès à l'eau. Je la présente maintenant. Donc, c'est 22 photos et des textes bilingues, en arabe et en français, qui ont été... produit par une association qui s'appelle AFAC Bethléem, donc une association lyonnaise. C'est une rencontre avec une artiste militante de cette association et des jeunes de la localité de Bethléem, à l'Alliance française de Bethléem. Elle s'est donc dirigée dans cette région. Elle a fait ce projet culturel avec ces jeunes qui, à l'époque, avaient entre 14 et 16 ans, il y a 4 ans maintenant. Et donc le résultat de ce travail, c'est témoigner de leur expérience et de leur vécu par rapport à cette thématique.
C'est un projet qui a été mené en 2019 qui a découvert à la Maison internationale de Rennes à partir du vendredi 17 novembre, donc cette semaine, et jusqu'au samedi 2 décembre. Et puis le temps de vernissage, il est prévu le 25 novembre à 17h, jour d'une conférence. On continue à dérouler vos propositions. Une conférence qui débutera à 18h30, en Palestine, cultiver, c'est résister, ce sera le thème exploré, toujours à la Maison internationale de Rennes. Je le dis aux auditeurs qui s'en rappellent peut-être, il se trouve qu'on a eu des nouvelles à la fin du mois d'octobre de deux bénévoles d'une autre association rennaise, AFPS, Association France-Palestine Solidarité, qui sont, aux dernières nouvelles, toujours en Cisjordanie, avec qui on avait parlé de l'empêchement en Cisjordanie, donc empêchement par les colons israéliens, pour que les Palestiniens puissent accéder à leur champ. La conférence, elle est un peu sur ce thème-là, finalement.
Alors, la conférence, c'est toujours cultiver, c'est résister. À partir des témoignages qui seront ceux de Sarah Katz, qui est donc une militante mais d'origine juive, mais qui est donc qui accompagne des projets, notamment sur l'accès à la terre et surtout la production agricole, donc à Gaza. Ce que l'on sait, c'est que c'est ce qu'elle devait présenter le 25 novembre. Elle viendra, mais elle pourra simplement dire aussi que tout ce qu'ils ont construit depuis cette dizaine d'années a été détruit. Donc il n'y a plus rien du maraîchage, des serres, des pépinières qu'ils avaient tenté de développer et très récemment d'un château d'eau. C'est ce qu'ils nous avaient expliqué en septembre. On sait aujourd'hui que tout ça a été détruit. Donc par rapport à cette rencontre, donc, elle sera là avec la présentation du soutien qu'ils apportent, donc, malgré qu'ils soient, eux, une association juive française pour la paix, mais qui ont été tout à fait acceptés par les Gazaouis, donc, et notamment une localité donc, où se situe leur coopération. C'est leur témoignage hein, qu'on attend. Là, bon, là je ne peux pas vous en parler puisque moi, je n'ai pas de contact du tout avec Gaza, c'est évident pour moi. C'est pas du tout, je ne suis pas du tout en relation. Par contre, avec les Cisjordanie, il sera possible d'avoir un retour quand même, notamment de ce qui se passe aujourd'hui et par rapport à Bethléem, parce que les jeunes qui ont fait ce projet culturel autour de l'eau, un des jeunes sera à Rennes ce week-end. Il rencontrera d'ailleurs d'autres jeunes d'un lycée général autour de Rennes. Enfin bon, il rencontrera ces jeunes pour parler justement de ce rapport à l'eau. Il faut savoir aussi que lui vit en France et qu'il est aussi très très inquiet de ce qui se passe dans sa ville natale, Bethléem donc, puisque sa famille y réside. Et il a accepté, on va dire avec beaucoup de précaution, de venir jusqu'au Festisol de Rennes. Et hier soir, il me disait qu'il était même très heureux de venir.
Une situation évidemment très tendue en ce moment dans ce contexte de conflit terrible au Proche-Orient. Et on le redit, sur le territoire de la Cisjordanie, comme nous l'avait très bien expliqué l'association France-Palestine Solidarité, des morts aussi sur ce territoire et puis des blocages et une vie quotidienne rendue très difficile. Je vous représente tous les deux, Lydie Cadeau, donc chargée de communication à la MIR, Maison Internationale de Rennes, et Christian Bazin du collectif Rennes Bétunia qui organise et participe au Festival des Solidarités, le Festisol 26e édition. C'est du 17 novembre au 3 décembre à Rennes et le programme complet est à retrouver en ligne sur le site festivaldessolidarités.org. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Troubles run like rivers, hold on to my shoulder. How can I say no to you? Is it getting older to be squeezing hours? How can I say no to you? All I've ever wanted, can't take it for granted. I wanna pray for you. Take me to a baseline so that I can feel fine. I still wanna pray for you. A few here, nothing do. The best near, you know one on one makes two. People home, sagas grown. I lost track, you know one on one makes two. Time is in the corner, yesterdays are over. But I get to see us too. Brother, how do you do? Seems like nothing is true when I get to see us two. Troubles, rivers, hold on to my shoulder. How can I say no to you? Is it getting older to be squeezing hours? How can I say no to you? Troubles run like rivers, hold on to my shoulder. How can I say no to you? Is it getting older to be squeezing hours? How can I say no to you? Brother, how do you do? Seems like nothing is true when I get to see us too. Time is taking over, nothing lasts forever, but I get to see us too. Troubles run like rivers, hold on to my shoulder. How can I say no to you? Is it getting older to be squeezing hours? How can I say no to you?
DJ Pone feat Blasé avec le morceau Friends, qui est à retrouver sur le dernier album de ce musicien et producteur français. Et c'est la recommandation musicale de Lydie Cadeau de la Maison Internationale de Rennes que vous venez d'entendre dans l'émission d'Info Locale pour annoncer le Festival des Solidarités, un événement, on ne l'a pas dit, mais qui est gratuit. Vous êtes en train d'écouter La Rennes, c'est l'émission d'info locale de Canal B sur le 94.0 mais aussi en ligne sur canalb.fr. On poursuit cette émission avec une rediffusion en date du 16 octobre. Cette rediffusion, c'est un reportage à la MAMI, la Maison des Migrations, un projet interassociatif qui est en expérimentation à l'Hôtel Pasteur à Rennes jusqu'au début du mois de décembre. C'est ouvert du mardi au vendredi, que l'après-midi pour ce qui est du mardi. L'exposition de Jigel Nsimba, dont on parle dans le reportage qui arrive, eh bien, elle a depuis pris la direction du timbre de Maurepas pour tout le mois de novembre et dans les événements à venir, des goûter à thème qui sont organisés les 16 et 23 novembre novembre à 17h30. Un débat public qui est proposé le 30 novembre sur le thème de l'accueil des exilés du global au local. Et puis l'expérimentation se terminera par un temps festif, Utopie de sortie. C'est le nom de l'événement organisé le 8 décembre. Le reportage, c'est maintenant.
Je lis cette phrase alors dans le livre de Marat intitulé « Femme d'Alep ». C'est un livre qui a été écrit avec Ismaël Dupont. Tu dis la familiarisation, alors c'est le témoignage de plusieurs femmes syriennes dans le livre. La familiarisation avec la langue française n'a pas été aisée pour moi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, mais si je peux juste revenir un petit peu
au
premier épisode en Syrie, parce que je suis aussi un cas particulier.
Bonjour, moi c'est Gaëlle, donc je suis responsable à la MAMI, le nom de l'association, qui pilote le projet de la Maison des Migrations, qui est un titre provisoire pour un projet sur lequel on réfléchit depuis 2 ans. Et la MAMI, c'est une association qui a été créée l'année dernière, en juillet 2022. Alors l'histoire, enfin la genèse du projet, elle est un petit peu longue. Au tout début, en fait, on a créé en 2019 une cantine multiculturelle et solidaire avec un collectif au sein d'une association qui s'appelle DIDA. On s'est rendu compte, du coup, à travers cette expérience, que de proposer des espaces d'engagement pour des personnes qui étaient, par exemple, en cours de demande d'asile, ben, c'était très valorisant. Ça a vraiment permis de travailler le faire ensemble, l'organisation collective aussi, du coup, le sentiment d'appartenance. Et en fait, ben, on a vu le résultat sur des potes qui s'étaient mis en confiance grâce à ce support collectif, quoi. Et de ça, en fait, on s'est dit, bon, ben, quitte à faire une cuisine, on va faire une maison. Voilà, dans cette idée de vraiment de valoriser les compétences des personnes, parce que les personnes exilées, c'est avant tout des humains qui ont des compétences, des savoir-faire, des rêves, et voilà, avec qui c'est super agréable de partager et d'échanger, quoi.
Quels acteurs identifiés sur ces thèmes-là est-ce qu'on retrouve investis dans la maison des migrations aujourd'hui ? J'ai cru croiser du monde de chez Cœur Résistant, notamment.
Ouais, exactement. Du coup, le projet, là, depuis 2 ans, bah, il s'est structuré. Enfin, on a vraiment eu une phase de réflexion. Voilà, qu'est-ce que ça va être ? En allant regarder aussi sur des projets qui existent sur le territoire national. Et puis en allant interroger aussi beaucoup de partenaires, de personnes concernées, etc. On a fait un diagnostic de territoire sur Rennes qui a révélé, bon, comme d'autres diagnostics l'ont fait, hein, qu'il y avait un fort maillage associatif. Il y avait plein de services en fait qui existent sur le territoire de Rennes, mais que ça reste très fragmenté. Et du coup, ça crée des informations qui sont compliquées à avoir pour les personnes, des parcours du coup aléatoires, fragmentés, et puis aussi de la part des acteurs, un manque d'interconnaissance et du coup vraiment un besoin d'avoir un lieu en fait qui soit référent où on puisse à la fois concentrer les informations mais aussi les diffuser à la fois pour les personnes exilées mais aussi pour les professionnels bénévoles aussi très investis et puis n'importe quel citoyen en fait qui peut aussi être amené à être confronté à des situations où il n'a pas forcément les réponses. Et donc toute cette construction elle s'est faite en fédérant des partenaires autour du projet parce que le projet de la maison des migrations, hein, qui s'appelle comme ça maintenant, mais qui s'appellera autrement quand on aura trouvé le lieu, c'est vraiment de construire comme une grosse coloc associative. Donc, en fait, voilà, on a construit des moments à la fois avec les personnes exilées, mais aussi avec les partenaires associatifs, de réflexion, etc. Ce qui nous a amené à avoir envie d'expérimenter le projet concrètement. Donc, on est à Pasteur, parce que c'est un des partenaires historiques de la MAMI. Et là, en fait, il y a 12 associations qui roulent, en fait, enfin, qui proposent des permanences, des activités, des ateliers, voilà, sur différents champs. Donc, effectivement, vous avez vu Hélène de Cœur Résistant. Là, aujourd'hui, ils viennent en permanence. Il y a des permanences juridiques avec le MRAP, des permanences administratives avec Saint-Benoît-Labre. Il y a des ateliers de langue et communication qui se font ici. Il y a la PEOL aussi qui vient faire des entretiens. Il y a des partenaires aussi qui sont là parce qu'en fait, un des objectifs aussi de ce lieu, c'est que vraiment n'importe qui a un besoin, en fait, qui se pose une question, qu'elle soit juridique, administrative ou juste j'ai besoin de me poser ici, j'ai juste envie de prendre un café ou de parler français, etc. N'importe qui peut venir ici, on l'accueille et on essaie de l'orienter au mieux. Et donc, il y a d'autres associations comme Bienvenue, comme il y a aussi J'accueille qui fait des permanences aussi et qui fait aussi des temps d'accueil. Et il y a Bulle de Français, donc j'espère que je n'en ai pas oublié. Puis il y a d'autres associations aussi avec qui, par exemple aujourd'hui la Balade des Livres, on s'associe avec eux pour créer des événements. Là aujourd'hui, donc, il y a une rencontre à 15h avec des écrivaines exilées, mais il y a aussi une projection le 9 novembre avec, dans le cadre du festival alimentaire prévu avec Exilem. Voilà, il y a la LDH aussi, qui vient faire d'ailleurs des permanences aussi. On est en lien en fait et ça permet vraiment une synergie assez incroyable et de se connaître aussi mieux parce qu'en fait on est sur le même lieu quoi.
Voilà. LDH c'est la Ligue des droits de l'homme. La plus grosse carence sur le sujet de la vie des personnes exilées à Rennes, particulièrement médiatisée en ce moment, c'est la carence en logement qui semble être le besoin primaire pour les personnes exilées, avec un campement en ce moment dans le parc de Maurepas à Rennes et des occupations de lieux pour rendre un peu public et visible cette problématique-là. C'est pas la vocation de la MAMI de répondre aux questions de logement.
On n'est pas une structure d'hébergement. On travaille avec des structures d'hébergement. On travaille avec Saint-Benoît-Labs, mais on travaille aussi avec J'accueille, par exemple, qui fait de l'hébergement solidaire pour les personnes réfugiées. On est en partenariat avec Utopia 56, avec plusieurs assos aussi sur le territoire qui travaillent ces questions-là. Après, la question de l'hébergement, c'est une question qui est une compétence d'État. Et du coup, c'est un savoir-faire qui est particulier. La mairie de Rennes s'en empare également. Mais la MAMI n'a pas vocation, en tout cas, à créer un centre d'hébergement. Il y a des lieux à Paris qui le font, par exemple, qui créent des espaces avec centre d'hébergement. Mais nous, ça nous pose un petit peu problème, dans la mesure où on considère que un lieu de vie où on peut être amené à faire des événements festifs et culturels, parce que c'est aussi ça le projet de la MAMI, c'est vraiment d'avoir dans le volet lien social, il y a vraiment cette volonté d'avoir un espace de restauration, un espace aussi où on puisse créer des événements festifs et culturels. Et un lieu comme ça, c'est pas spécialement compatible avec un lieu de vie où on vit vraiment, où on est hébergé, où on a besoin de tranquillité. Pour nous, c'est vraiment des lieux différents.
La maison des migrations, c'est un projet alors qui, là, dans sa phase expérimentale, vit notamment grâce au budget participatif, je dis pas de bêtises,
En partie, oui. On a effectivement eu le budget participatif, merci, du département. Mais c'est un budget qui n'est fléché que sur de l'investissement. Du coup, pour tout ce qui est fonctionnement, là, en fait, nos soutiens, c'est la ville de Rennes, Rennes Métropole, le département aussi, parce qu'on fait vraiment partie aussi de l'écosystème ESS, donc on a été incubé à TAG, on a été porté par une structure, un tiers-lieu aussi qui s'appelle ESS Cargo et compagnie, à Villejean. Et
La Fondation Abbé Pierre.
Et la Fondation Abbé Pierre. Le fonds FIL aussi, avec la Fondation Bruno.
ESS pour économie sociale et solidaire et TAG, c'est donc un incubateur qui est installé dans le quartier du Blône au sein du bâtiment du Quadri et qui accompagne dans le développement des projets qui s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire. Là, on se retrouve au moment de l'expérimentation qui vient de débuter, qui se poursuit jusqu'en décembre. Mm-hmm. Et après, donc vous êtes dans la recherche d'un local en fait en ce moment grand.
Oui, on est là pour 3 mois. C'est vraiment pour tester le fonctionnement collectif, mettre une première pierre, montrer ce dont on a envie.
Et sur le futur, il faudra 400 mètres carrés, un lieu placé dans Rennes. Non, c'est ça les objectifs.
On est plus sur du 800 mètres carrés quand même. Enfin, en faisant le calcul de tous les besoins, on est plutôt sur du 800 mètres carrés, ce qui correspond un peu à l'enveloppe de mètres carrés de plusieurs lieux, en tout cas assez similaires. Ce serait effectivement plus pertinent que ce soit accessible. On est en relation avec les collectivités territoriales, mais aussi avec quelques agences privées. Et puis c'est aussi pour ça que, en fait, on est sur une expérimentation de 3 mois. Et l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de tirer les conclusions de cette expérience. Et puis, en fonction des conclusions aussi, de pouvoir prendre le temps de bien finir la construction du projet, l'étude de faisabilité, en fait.
À terme, vous aimeriez salarier plusieurs personnes sur le projet et puis donc proposer des choses sur différents volets, un volet social, un volet culturel, un volet entrepreneurial et d'insertion et un dernier volet écologique.
Et du coup, par rapport à l'équipe, effectivement, là on est bientôt 2 salariés, il y a 2 services civiques, il y a des bénévoles aussi.
Est-ce qu'il y a des temps forts à annoncer dans les semaines à venir, et notamment le temps d'inauguration ?
Oui, donc samedi 21 octobre, à partir de 14h jusqu'à 20h, on fait vraiment des portes ouvertes. Donc on va pouvoir vous montrer, vous inviter dans notre maison pour vous montrer un peu tout ce qu'on a installé. Et puis il y aura certains des partenaires qui seront présents aussi pour expliquer leur domaine d'activité. Voilà, et puis il y aura un atelier cuisine aussi, puis une exposition à venir voir, enfin 2 expositions du coup à venir voir tout le mois d'octobre pour Confidence et Cerise sur le gâteau. Et puis Gigel, il est là aussi tout le mois d'octobre, et puis il est là de toute façon en résidence tous les jours, donc vous pouvez venir admirer en direct 16 heures. Dans les autres événements, on a une table ronde aussi avec des étudiants qui travaillent sur les questions concernant l'exil. Il faut se tenir en fait au courant sur Instagram. On poste régulièrement des infos, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et on aura un temps fort aussi de sortie de résidence, enfin d'expérimentation, le 8 et 9 décembre.
C'est facile pour moi, je peux dire son point et baguette, s'il vous plaît. Mais pour rentrer, la queue là, j'arrive, une baguette s'il vous plaît. Mais votre cuisson, ah.
Je m'appelle Jigel Timba Mokongo. Je suis Congolais. Je suis né à République démocratique du Congo. Je suis artiste peintre, mais je ne fais pas seulement de la peinture. En général, je suis artiste peintre, graphiste et plasticien.
Ok.
C'est ça. J'ai fait la peinture céramique sculptée, l'animation 3D, 2D. Okay. Voire même les affiches, les montages vidéo, tout comme ça.
Est-ce que je peux vous demander quand est-ce que vous êtes arrivé à Rennes?
J'étais arrivé ici le 1er janvier 2023. Malgré ça, mais j'ai parvenu à m'adapter dans l'environnement, à bien connaître comment la Rennes marche. Je suis heureux d'être ici. Il est réfugié ici en France, précisément à Rennes, depuis 2017. Il a le statut de réfugié. Donc, j'ai vu chez mon frère.
Et vous avez pu faire une demande d'asile et...
Oui, j'avais fait une demande d'asile. Moi-même, je suis convoqué à l'OFRA. Je crois que le mois prochain, je dois aller là-bas.
Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a poussé à partir et à venir ici? Vous pouvez me dire non. Des fois, quand c'est douloureux, on n'est pas obligé d'en parler.
Je suis obligé parce que j'ai besoin aussi que ça puisse être médiatisé pour que tout le monde puisse sachent pourquoi je suis venu ici. J'ai fui mon pays parce qu'il y avait plein de choses qui étaient arrivées dans ma vie. C'est mon talent qui m'a poussé à être ici. On dit, l'artiste est là pour mettre la paix dans le pays, pour aussi éduquer toute une nation grâce à mes œuvres. On dit, l'art en général peut aussi changer toute une nation. Moi, dans mon pays, je croyais que c'est un pays droit de l'homme. Je me suis fait tromper. Droit de l'homme dans mon pays, ça n'existait pas. Si réellement ça existait, j'allais pas être ici.
Depuis que vous êtes arrivé au début de l'année, à quel moment vous avez découvert l'hôtel Pasteur, la maison d'émigration pour laquelle vous êtes bénévole aujourd'hui ?
Ouais. C'était les mois passés. Avant d'être ici, j'étais dans une autre association, association qu'on appelle Coupé-Décalé. C'est par là que j'avais commencé à faire mes œuvres d'art. J'ai fait d'autres styles. Mes œuvres sont mélangées, culture africaine et culture européenne en même temps.
Vous avez quel âge ? Je ne vous ai pas demandé.
Je suis 35 ans.
Il y a beaucoup de peintures que vous avez réalisées autour de nous qui sont regroupées dans une exposition. Des peintures pour un peu essayer d'expliquer aux auditeurs qui sont très colorées, où on voit beaucoup de visages, il y a des explosions de couleurs et puis aussi plein d'évocations de la nature, même de la vie animale aussi.
Il y a les tableaux là, qui est là-bas, la femme. La femme, elle est enceinte. Dans son ventre, j'ai mis la tarse du monde. La femme, en général, elle supporte tous nos fardeaux, toutes nos souffrances que nous on est tenté de vivre sur la terre. La femme supporte ça.
Vous vous sentez comment quand vous peignez ?
Si par contre je reste bras croisés, ça peigner, c'est comme si je risque de tomber malade. Donc, parce que l'art d'abord, quand je peins, donc, ça m'aide de ne pas beaucoup penser des choses vécues dans ma vie. Donc c'est comme si l'art me libère l'esprit. Donc c'est comme si je suis condamné à peindre tous les jours pour que je puisse me sentir plus mieux.
Là, ça fait 20 ans que je suis en France. Je ne suis pas à l'aise de parler avec les inconnus parce que tout de suite, ah, votre accent, madame. Donc je sens toujours que je suis pas à l'auteur des Français.
Yeah.
Avec le morceau Aroé Stevan. C'est une nouveauté musicale qui a été choisie par Yann, notre programmateur musical ici à Canal B, et qu'on retrouve sur un album œuvre, j'espère que je le prononce bien, c'est sorti chez Cop Braise au mois d'octobre, et c'est le premier album de ce quintet rennais qui joue, tiens, à Saint-Brieuc le 17 novembre, si jamais vous passiez par là dans deux jours. Vous écoutez La Reine, l'émission d'info locale de Canal B, qui a quitté les réseaux sociaux depuis la rentrée du mois de septembre, et qui fonctionne désormais avec un newsletter qui s'appelle Le Courrier de la Reine. Chaque vendredi, j'envoie aux abonnés un résumé de ce qui s'est raconté dans l'émission, avec des focus sur certains reportages ou interviews. Si vous souhaitez vous abonner, rien de plus simple, vous m'envoyez un email à l'adresse lucie@canalb.fr. Il y a aussi un formulaire d'inscription à retrouver en ligne sur notre site internet si besoin. L'émission d'info continue et va bientôt se terminer, puisque c'est l'heure de la recommandation du jour. Alors, la recommandation du jour, ce sont des conseils de choses à voir, à écouter, à lire ou à vivre à l'échelle locale ou parfois sur des propositions nationales. Aujourd'hui, on annonce une rencontre avec Mandy Barker, la photographe à l'origine de l'exposition Océan Plastique. Cette rencontre, c'est jeudi 16 novembre à 17h au Tambour, et l'expo, elle est à voir depuis le 4 septembre et jusqu'au 8 décembre sur le campus de Villejean, et c'est gratuit. Dans le prolongement de cette exposition, qui est inscrite dans le cycle consacré à l'environnement verdoyant, mais également dans le festival photo Glaze, eh bien, une rencontre est organisée avec la créatrice Mandy Barker, une Britannique dont les travaux ont été primés et exposés dans plus de 40 pays à travers le monde. En collaboration avec des scientifiques, elle se consacre à sensibiliser le public à la pollution plastique des océans. Dans Océan Plastique, Mandy Barker présente l'accumulation de masses de débris plastiques dans nos mers et nos océans à travers des montages photos, avec des débris qui ont été récupérés sur les plages du monde entier. Son but, c'est le suivant: créer une contradiction émotionnelle entre l'attraction esthétique initiale, puisque les photographies sont très belles, et l'horreur de ce qui est montré. Pour plus d'infos sur cette expo et sur la rencontre du 16 novembre, rendez-vous sur culture.service.univ-rn2.fr.
La Reine
C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.